Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Ok, bonsoir à tous. On va prendre place ce soir, s'il vous plaît. Ok, donc dans Josué chapitre 1, on va lire ensemble rapidement dans la parole de Dieu ce soir. C'est bon, tu vois pas? Tu vois? C'est bon. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu t'annonce quelque chose que tu sais déjà. Josué et toute l'armée sait que Moïse est mort. Dieu arrive et enfonce le clou. Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi. Tout le monde dit dispose-toi. Dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'à la montagne de Mafad, du Liban, du grand fleuve de Saint-Pierre, l'Euphrate à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi, toute la parole de Dieu que mon serviteur Moïse a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est une parole prophétique, ça. Donnée par Dieu lui-même, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de prophète, il y avait Dieu qui arrive et bam. Verset 8, « Aie soin de répéter sans cesse. » Tout le monde dit répéter. Tu vois, tu répètes. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. » La première chose ce soir, j'aimerais dire, c'est que le cœur de Dieu, c'est que tu réussisses. Le cœur de Dieu, c'est que son Église réussisse. Le cœur de Dieu, c'est que son Église brille. Que partout où ton pied se pose, cette terre t'appartient. Dieu veut que tu puisses être un conquérant, un plus que vainqueur. Il y aura des erreurs, il y aura des péchés. Mais Dieu veut que son Église aille de l'avant. Alors cette semaine, j'ai posé à Dieu la question, du Seigneur, pourquoi alors ? Après toutes ces paroles puissantes et ces prophéties et ces messages puissants que nous recevons tous les week-ends, pourquoi est-ce que de nombreux chrétiens n'arrivent toujours pas à demeurer dans la terre promise, encore moins la conquérir? Est-ce que vous savez que les géants n'existaient pas dans le désert? Et que les géants sont apparus que dans la terre promise? La terre promise ne signifie pas la retraite. La terre promise signifie la conquête. La terre promise, ce n'est pas le lieu dans lequel je me repose pour boire du lait et du miel. La terre promise, c'est le lieu dans lequel je me bats pour avoir le lait et le miel. La terre promise est une terre magnifique. Cela parle de ta destinée, de ton appel, de ce que Dieu veut faire pour toi. Et Dieu veut te bénir, Église. Waouh ! Dieu veut te bénir, Église. Alors, quelles sont ce soir les cinq raisons, mais on va faire partie 1 ce soir. Cinq raisons, il y en a plus, hein. Mais cinq raisons pour lesquelles l'Église n'arrive pas à vivre ce que Dieu a pour elle. Aller à l'Église de dimanche en dimanche, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et je vais ce soir m'attaquer à cinq raisons, cinq poisons qui attaquent notre système spirituel, notre vie spirituelle et qui nous empêchent de vivre ce que Dieu a pour nous. Et s'il vous plaît, regarde ton voisin et dit, il n'y a pas de condamnation en Christ. D'accord? Donc on relaxe, on respire un bon coup. Le but de ce soir n'est certainement pas de nous rendre coupables, mais de nous dire attention, là il y a un problème, là il y a un souci, là il faut que je fasse gaffe et de pouvoir changer notre style de vie. Amen. Donc, le premier poison, alors il faut savoir que, écoutez bien ça, sur la liste des cinq, un seul des poisons peut t'empêcher de vivre ce que Dieu a pour toi. Un seul. Donc si t'as les cinq, prends des mouchoirs. Premier poison, vous êtes prêts? Le premier poison, le plus puissant, le plus grand neurotoxique spirituel qui t'empêcherait de vivre ce que Dieu a pour toi, s'appelle la paresse. Tout d'un coup, tout le monde fait « Oh !» La paresse. La Bible a beaucoup à dire sur la paresse et je n'ai jamais trouvé rien de bon dans la paresse, dans la parole de Dieu. Jamais Dieu a dit « Parfois, il serait bon que tu sois paresseux. » J'ai pas vu tout ça, j'ai cherché. Alors d'ordinaire, les gens paresseux tournent en rond et perdent leur temps à ne rien faire, ce qui est d'ailleurs leur passe-temps favori. Ne rien faire. Au lieu d'agir sur la parole, d'obéir au Saint-Esprit, le paresseux choisit de faire ce qu'il a envie de faire, quand il a envie de faire, s'il veut le faire, à condition qu'il n'y a pas trop d'efforts à faire. Notez ce qui suit, s'il vous plaît. La paresse est un poison, et la paresse est une forme très subtile de la rébellion. C'est un bon message, hein? En fait, quand tu es paresseux, tu es rebelle. Si Dieu dit « Va à la conquête de ta terre » et tu restes assis sur une chaise, tu es rebelle. Et ce soir, Dieu m'a dit de vous dire, moi le premier à vous tous, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. Ça veut dire que on ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus reculer. Si tu t'es marié, on appelle ça un point de non-retour. Si tu as des enfants, on appelle ça, quand on est parent, un point de non-retour. On ne peut pas les déposer chez des amis pour une durée indéterminée quand on a besoin d'un break. C'est pas comme ça que ça marche. On ne va pas les renvoyer à l'envoyeur. Tu es marié, tu gardes ta femme pour le meilleur et pour le rire. Donc, lisons avec moi s'il vous plaît. Ah oui, quand tu es paresseux, écoutez ça, hein, la paresse c'est un sédatif. Plus tu es paresseux, plus tu as envie d'être paresseux, parce que tu as l'impression que tu n'as pas plus de force. Moins tu as de la force, plus tu es paresseux. Plus t'es paresseux, moins t'as de la force. Tu imagines le truc? Et tu dis, je sais pas ce qui m'arrive, c'est trop difficile de me lever. Et au fur et à mesure, tu perds toute ton énergie. C'est pour cela qu'il faut faire de l'exercice. Pas sur la Wii. On me dit souvent, tu sais, moi j'achète une machine qui fait comme ça. Pff, ouais, à la limite. Et les gars sont sûrs que ça marche vraiment à fond. C'est un complément placébotique. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ça comment Dieu est bon avec nous. Proverbe 6. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains, rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Proverbe 20, verset 4 nous dit, à la saison froide, comme à la Réunion, le paresseux n'a pas envie de labourer, mais au temps de la moisson, il cherche à récolter. Ce gars-là est dangereux. Mais ne trouve rien. À la limite, il est même surpris, mais il n'y a rien donc. Non, t'as rien fait. C'est pas normal qu'il y ait rien, que j'ai rien fait. Si, c'est normal. Et on se rend pas compte que ce principe-là, nous le connecte souvent au travail. Mais c'est pas que le travail. Vous devez le connecter à votre vie de tous les jours. Votre vie spirituelle, votre vie familiale, votre vie maritale, votre vie de parents, votre vie de finances, notre vie. Notre vie doit, on doit comprendre que si on travaille sur notre vie, on a des fruits, on peut récolter. Si on ne fait rien, parce qu'on n'a pas envie de le faire, on ne peut rien récolter. Donc la paresse est le premier grand obstacle, le premier poison qui t'empêchera de vivre et d'accéder à la terre promise. Et donc Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un mauvais Dieu, c'est un Dieu bon et glorieux et majestueux. Et vous et moi, nous devons nous rendre compte que ce soir, nous avons le privilège d'être appelés par Dieu pour conquérir la Réunion, conquérir la France, aller en Malgachi, comprenez Madagascar. Je trouve qu'on aurait dû appeler Madagascar Malgachi, je trouve que c'est plus joli. Bon, c'est mon avis à moi. La paresse est le passe-temps favori du paresseux. Écoutez bien, qui est le meilleur ami du paresseux? Non, pas la paresse. Le meilleur ami du paresseux, c'est la télévision. Pasteur, ce soir, tu es pas gentil avec nous ce moment. Non, mais... L'avenir du paresseux se résume en un seul mot. Nada. Il n'y a pas d'avenir pour une église paresseuse. Là, beaucoup de chrétiens me disent, tu sais, pasteur, j'attends que Dieu vienne. Il a promis. Pasteur Marc a prophétisé. Alléluia, j'attends. Le gars me tente de mourir, tout ça. Rien n'est arrivé parce qu'on n'est pas allé chercher. La foi, c'est travailler avec Dieu. Oh là là. Quel est l'antidote? L'antidote, c'est passer à l'action. Poison numéro 1, la paresse. L'antidote, passer à l'action. Rappelez-vous, la paresse est un sédatif. Qui fait un peu d'exercice en ce moment, de temps en temps? Une fois par jour? Non, par semaine. Okay. Avez-vous remarqué que lorsque vous ne courez pas ou ne faites pas de sport, votre corps est maf? Vous remarquez ça ou pas? Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive là? Et tout d'un coup, tu peux sombrer dans un truc léthargique où tu crois faire du sport en regardant le Barça jouer contre PSG. Tu dis, tu crois que... La plupart des gens, je sais, moi j'ai vécu ça, la plupart des gens, mais ils sont fatigués et ils disent, ben, comme je suis crevé, je vais dormir. Non, on va pas dormir. Enfin, sauf si tu as bossé de la nuit, je comprends ça. Mais je parle de, tu sais, ce petit sommeil que vous faites trop souvent parce que si tu es fatigué, là, lève-toi, prends un bon jus de fruits, va marcher avec ton épouse sur le bord de la plage. Reviens après, tu seras en forme. La paresse est un sédatif. Elle paralyse dans l'esprit comme dans le monde physique. Passe à l'action. Proverbe 6, verset 6 nous dit, si quelqu'un... Non, 6, verset 6, verset... Tout le monde dit on aime. Alors, on aime Ivan. Et toi, paresseux, combien de temps? Non, c'est pas celui-là, mon ami. Verset 6, le prochain. Ivan, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Imagine, Dieu parle à un paresseux, il dit, écoute, tu as tellement personne à te montrer, va voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Les gars, si la fourmi est plus sage que moi, il y a un problème. Elle n'a ni surveillant. Pour les jeunes là qui vont à l'école. Elle n'a ni contremaître ou maître ou maîtresse. Elle n'a ni chef. Un paresseux, il est fini, Borger. Dieu dit ici, hey, toi qui es paresseux, regarde la fourmi. La fourmi, qu'est-ce qu'elle fait? Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Vous savez, l'Église aujourd'hui, l'Église en France, doit se réveiller et travailler avec beaucoup de puissance dans tous les domaines. Si vous avez une entreprise, allez-y à fond. Si vous êtes un enseignant, allez-y à fond. Quand je dis à fond, c'est pas pour vous tuer, d'accord? Je vous parle de cette vie pleine et harmonieuse. Je parle de cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Tu te lèves le matin, tu as envie de faire des choses avec ton épouse, avec ton chat, avec ton église. La paresse te fait rester sur la berge. Rappelez-vous Josué 1, Dieu dit traverse le Jourdain, mais la paresse te fera rester devant le Jourdain. Tu ne traverseras jamais le Jourdain si tu es paresseux. Jamais. Traverse le fleuve. Deuxième chose importante ce soir, deuxième poison, deuxième, rapidement deuxième. Des attentes irréalistes. Combien d'entre vous avez des attentes irréalistes? Attendre des choses qui ne sont pas réelles. Et on confond souvent le rêve et une attente irréaliste. En général, la paresse nourrit notre âme d'attentes irréalistes. C'est pourquoi? Parce que comme tu ne fais pas le plan de Dieu, et comme tu ne travailles pas, et comme moi je ne suis pas en train de faire ce que Dieu veut que je fasse, j'ai le temps d'imaginer. Et je m'assois avec une tasse de café, et là je rêve. Tu vois, si cette semaine je gagne les 100 millions d'euros, là, d'abord j'achète pour le pasteur un bateau. Dans ma dîme, bien sûr. Et tu es là, et tu fabules, et tu pars ton truc. Je gagne le tout un jour, le gars, pas jouer, hein. Je gagne un jour le tout, sans jouer, parce que. Et on part dans un flow comme ça. Attention, pour ceux qui ont quand même critiqué, je ne suis pas pour les jeux de dés, les jeux de hasard, voilà, ok, je l'ai dit. Je parle d'un exemple que beaucoup de chrétiens ne disent pas, mais le pensent. Seigneur, faites que je gagne le loto sans jouer. Et tu as le temps de fabuler. Tu vois, un jour, quand je serai riche, là, quand j'aurai 1000 employés, un jour, quand j'aurai de l'argent, quand ça va venir, un jour. Et tes grandes attentes. Et un jour, quand je vais me marier avec le plus beau, le prince William est pour moi. C'est pour moi. Je sais. Et tu es là dans ton monde, là. Il y a une femme qui m'a dit, il y a quelque temps de ça, ça remonte, elle m'a dit, moi, je cherche l'homme parfait. Parfait, je veux l'homme parfait. Regarde, je sais, ben, va au ciel. Parce qu'il est forcément déjà là-bas. Non, je veux l'homme parfait. Je veux que ça soit comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Je dis, toi, tu as des défauts. C'est pas grave, il est parfait, il pardonnera. La fille est lucide. Hein. Comme il est parfait, il peut pardonner. Et je dis, là, elle va loin. Il n'y a pas d'homme parfait. Écoutez ça, Église. Les attentes irréalistes, j'ai tellement je peux rien faire. Écoutez ça, comme je fais rien pour Dieu, écoutez bien, je fais rien pour Dieu, mais mon imagination va dans toutes les directions. Et il y a trop de chrétiens qui sont des rêveurs ambulants. Tu l'écoutes parler, si je vais faire ça, un jour je fais ci, un jour je fais ça. Et le gars parle sur plein de trucs qu'il veut faire, mais rien n'est accompli, rien n'est fait. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Il y a une image collée sur le mur, voilà. Attente irréaliste. Un jour je ferai ça. Tu regardes l'image, tu fais, tu sais qui ce gars-là? C'est Tom Cruise. Ouais, pareil, je ferai comme lui. T'es acteur? Non, mais je vais devenir acteur. Tu prends des cours? Non. Prends pas de cours? Non, je vais me faire. Tu vois, un jour on verra que je suis talentueux. Pas de cours, rien, non. Tu fais quoi? Je suis maçon. Bah, monte une maison? Non, je serai acteur. Mais pour l'instant, je fais maçon. Comprenez l'idée? On est dans un flot totalement différent. Et dans une église, si l'église n'est pas cohérente, si vous et moi, on ne sait pas ce qu'on veut accomplir et qu'on fait des rêves irréels, ça sert à rien. Quelle différence il y a entre un rêve et une attente irréelle? Écoutez bien ça. Un rêve, quand il vient de Dieu, il nourrit ton âme avec passion et force et énergie et onction. Tu sens que c'est Dieu. Ça te prend les tripes et ça te pousse en avant. Mais quand c'est une attente irréelle, le fruit de ton imagination, Tu ne fais qu'imaginer et imaginer et imaginer, et tout le temps de ta vie, tu rêves. Il n'y a pas de puissance, pas de passion, pas d'énergie, pas d'action. Le rêve de Dieu te pousse à l'action. Une attente irréelle te pousse à l'inaction. Alors, secoue-toi un peu ce soir. Tu me dis, Bruno, tu sais, ça fait 10 ans que je suis pareil. J'ai rien accompli depuis 10 ans. Je fais toujours les mêmes choses. Réveille-toi. Arrête d'avoir des attentes irréelles. Rêve avec Dieu et commence à travailler. Proverbe 28:19. Je parle de travail, je parle dans toutes les zones, hein. Pas seulement le travail. Le vrai, je parle du travail dans ta vie, ton couple. Qui travaille sa terre aura de quoi manger, mais qui court après des futilités sera rassasié de misère. Dieu est cool, il est sympa, il est direct, il est franc. Impossible de se tromper. Si tu bosses, tu récolteras. Si tu cours après des futilités, tu seras rassasié, hein, ça c'est sûr, de misère. La moisson n'arrive pas par hasard. Je voudrais dire ça. La moisson n'arrive pas par hasard et la récolte n'est pas accidentelle. Il n'y a pas de récolte accidentelle. Tu dis, oh, c'est cool, je viens de recevoir ça. C'est rare. Avec Dieu, non. Dieu te donne une parole. Il te dit, médite-la jour et nuit. Travaille là-dessus. Et alors, tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans Jean 5:17, Jésus dit, puissant, « Mon Père travaille depuis hier. Mon Père travaille depuis toujours. Et moi aussi je travaille. » S'il y a une chose qui caractérise le Père spirituel, le Père céleste, Dieu le Père, c'est le travail. Je vais vous dire avec beaucoup d'amour ce soir, un vrai chrétien est un bosseur. Surtout les jeunes, ils doivent dire amen. Les jeunes sont forts là. Je veux voir tout le carnet de liaison avant la fin de la soirée. À la maison. Regarde, Thomas a dit, un vrai chrétien est un bosseur. Vous savez, en ce moment, je vois des gars au chantier à l'église là-bas. Parce que bon, vous me direz, ils ont le temps peut-être, mais ils viennent le matin et le soir. J'ai failli leur acheter des lits pour qu'ils dorment là-bas. Mika, Jean-Paul, les gars sont là, j'arrive le matin tôt, ils sont là, je pars le soir tard, les gars encore là. Ça bosse, ça travaille dur, je dis waouh. Je vois des gens bosser dur le matin, ils se réveillent tôt le matin et travailler. Les gars, les amis, les gens, le peuple de Dieu. Mon Père travaille depuis toujours. moi aussi je travaille. Vous savez, les attentes irréalistes sont des parenthèses furtives dans une vie réelle. C'est un petit moment de rêve qui n'a aucune puissance. Mais quand tu rêves de la part de Dieu, tu es poussé par l'action. Et enfin, le dernier poison s'appelle la nonchalance, plus subtile. Apparaît, c'est facile de voir. Tu te couches tard le soir, tu te lèves tard le matin, tu fais la sieste entre 10h et midi, tu fais la sieste entre 1h et 4h, tu es paresseux. Facile de voir un gars qui a des attentes irréalistes. Il y a des grands rêves, mais il n'y a pas de substance. Mais la nonchalance, c'est un peu plus subtil. Écoutez ça, la paresse, c'est un problème de discipline. C'est qu'en fait, les gens, on n'arrive pas à se lever le matin, on n'arrive pas à se discipliner, on n'arrive pas à faire des... Non, ça c'est la discipline. Si tu te disciplines, tu réussis. Moi, quand mon coach m'a dit il y a des mois de ça, il faut que tu fasses ça. Je dis, le gars, je sais quoi, il faut que je fasse ça, mais tu es fou quoi. Il m'a dit, t'inquiète pas, fais-le, on reste ensemble. Et à force de lui faire confiance et de me discipliner, je commence à réussir à courir un petit peu. Discipline. Mais la nonchalance, c'est pas un problème de discipline. Le nonchalant va faire les choses, mais avec une mauvaise attitude de cœur. Et qu'en fait, il fait les choses, mais tu sais, il n'est pas à fond dedans. Vous avez vu ça? Tu as ton fils, fais ta chambre. Prends laurier. Voilà, j'ai fait. Hein. Ça s'appelle nonchalant. Il a obéi, mais c'est nonchalant. Et la nonchalance devant Dieu, c'est affreux. Il n'aime pas ça du tout. Je vais lire des versets pour vous rapidement, mais c'est, en français, c'est traduit par le mot paresse. Mais le vrai mot, c'est nonchalant. Dans Proverbe 15, 19, la Bible dit le chemin du nonchalant est une haie de ronces. Mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Imagine, tu marches et tu as des haies de ronces. C'est ton chemin. T'es tellement nonchalant que t'es là en train de faire aïe, 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 aïe. La vie chrétienne est dure. Aïe, aïe, la vie chrétienne est dure. Impossible d'influencer quiconque. Dieu est bon. Ah oui, Dieu est bon. Aïe, oui, Dieu est bon. Aïe, oui, Dieu est bon. Aïe. Wow. Le proverbe 19:15 nous dit la paresse, nonchalance, plonge dans la torpeur. Et l'indolent, le mou, l'apathique, la morphe, souffrira de la faim. Ça tape là. Je te dis, va conquérir ta terre, vas-y, prends-la, je t'appelle, tu vas, tout ce que tu vas fouler comme partie de la terre, c'est à toi, prends-la. Regarde là. Il faut lever la jambe là, enfin aussi, mais Dieu ce moment. Voilà. Et l'Église réagit trop souvent comme ça. C'est trop dur. Non. Il y a du changement dans l'air. Steve, écoute ça, il y a du changement dans l'air. Les têtes politiques vont changer. On m'a dit, oui, tu avais prédit qu'il y aurait un homme qui serait à la tête du gouvernement, qui allait voter des lois homosexuelles. Pourquoi tu n'as pas dit qu'il ne fallait pas le faire? J'ai dit, attends, j'ai prédit, parce que Dieu l'a dit, qu'un homme serait chef du gouvernement et qui voterait des lois homosexuelles. Et pourquoi Dieu a permis ça? J'ai dit, pour réveiller l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est réveillée. Marche dans la rue. Nous ne voulons pas. Ah bon, tu te réveilles un coup maintenant? Dieu se sert de tout ce qu'il peut se servir pour nous réveiller. À nous de mettre des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et je termine, donnez-moi juste 2 minutes. Le proverbe 22 est super marrant. Enfin, ça dépend. Le paresseux dit, il y a un lion là dehors. Je risque d'être déchiré en pleine rue. La version d'aujourd'hui dirait, écoutez ça. Écoutez bien la version grecque de Bruno Picard, ok, d'accord, c'est une blague, mais écoutez bien ça. C'est où? Ouais, ça revient à dire, il y a eu un tremblement de terre il y a 5 ans en Indonésie, suivi d'un tsunami qui a touché la plage de Saint-Gilles. J'irai pas à la plage aujourd'hui. C'est la même bêtise. Il y a pas de lien. Le gars, il est chez lui. Il y a un lion dans les rues. Je vais me faire tuer. Ça revient à dire, il y a eu un tsunami. il y a 10 ans, ça a touché Saint-Gilles, je vais plus à Saint-Gilles. Parce que le nonchalant et le paresseux sont les experts pour trouver des excuses. Experts en excusite. Église, la nonchalance, la paresse et les attentes irréelles sont les trois premiers gros obstacles d'une église en bonne santé ou d'un homme ou une femme en bonne santé spirituelle. Parce que ce soir, Dieu m'a dit de vous dire, il m'a dit de vous dire qu'il veut vous bénir avec exubérance, avec extravagance. Ce que Dieu commence à faire avec extravagance n'est que le début. Il n'est pas limité par la guerre des étoiles. Il est limité par la nonchalance. Il n'est pas limité par nos circonstances. Il est limité par notre attitude dans les circonstances. Et pour finir ce soir, j'ai une image aujourd'hui. J'arrivais devant le trône de Dieu. Et je devais me justifier pour dire à Dieu pourquoi je n'ai pas fait ce qu'il voulait que je fasse. Vous savez quoi ? Dieu ne va pas juger mes circonstances en disant « Ah ouais, tes circonstances n'ont pas été gentilles. Méchante circonstance, va !» C'est à cause de vous si vous n'avez rien fait. C'est à vous les circonstances. Il va dire « Non, non, Bruno, tu as eu un cœur, tu as eu la foi, tu as eu mon esprit. Je juge ton attitude dans les circonstances. » Il ne va pas dire « Oh, Satan, pourquoi tu as fait ça avec Bruno ? C'est à cause de toi que Bruno n'a rien fait. C'était de ta faute, Satan. » Non, Satan va être pris, jeté en enfer, point. Dieu va me dire, Bruno, toi, tu as eu l'épée de l'esprit, le feu de Dieu, le Saint-Esprit, ma parole, tes frères et tes soeurs autour de toi. Tu pouvais vaincre l'ennemi. Ah, c'est la faute de Steve. C'est la faute des autres. Église, c'est moi qui détermine à quelle distance je me trouve de Dieu. Et c'est moi qui détermine quelle est la passion dans mon cœur. Et c'est moi qui détermine quelle quantité de temps je veux consacrer à mon Dieu. Donc ce soir, Église, ces trois problèmes-là, tout le monde les rencontre, moi le premier. La paresse peut frapper pendant quelques temps, ça arrive. Donne-lui ce soir un grand coup de pied. La nonchalance, ça peut arriver. Tu fais les choses, mais tu n'as plus envie de les faire. Tu fais les choses, tu n'as pas de passion. Tu fais les choses sans zèle. La nonchalance frappe beaucoup de couples. On est marié par habitude. Bon, ben ok, je t'aime alors. Je suis obligé parce que le pasteur m'a dit, il faut dire. Alors je dis. Pff, nonchalance. Tu m'aimes encore, chérie ? Ben oui, il est obligé. Chérie, si t'avais le choix, franchement, imagine qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de chrétien, rien. Toi et moi, tu restes avec moi ? Non. Ça peut arriver. Mais je préfère qu'on soit vrai, qu'on soit nonchalant. La nonchalance, c'est la tiédeur. Et Dieu n'aime pas les tièdes. Et les attentes irréelles vivent dans un rêve continuel sans jamais mettre la main à la pâte et commencer quelque part. Au mois d'avril avec Pasteur Steve, nous allons travailler avec ceux qui n'ont pas de travail. Je comprends qu'il peut y avoir des gens qui sont au chômage et pour des raisons valables, ils n'arrivent pas encore à trouver du travail. Je peux comprendre ça, je comprends, je conçois. Tu es malade, tu as un problème d'handicap, tout ça je comprends. Mais je ne comprends pas qu'on puisse devenir chômeur professionnel. C'est pas normal ça. Les chrétiens doivent donner à la société. Les chrétiens doivent créer des richesses. Les chrétiens doivent être les plus grands travailleurs que la terre ait porté. Les chrétiens doivent être connus pour leur travail d'excellence. Je vous aime trop ce soir, Église, pour vous dire « Oui, c'est bien, non, Église, c'est super ce qu'on fait, mais il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de terres à conquérir. Il y a tellement de beaux mariages à avoir. » Il y a tellement de beaux mariages à avoir. Qui veut avoir un beau mariage ? Travaille. Travaille sur le mariage. Qui n'est pas encore marié ? Qui veut un bon parti ? Travaille. Et rapidement, rapidement. Conseil aux demoiselles. Ne sortez pas avec un gars qui ne sait pas où il va. S'il ne sait pas où il va, tu iras avec lui, c'est-à-dire nulle part. Sors avec un homme qui a entendu le cœur de Dieu. Dieu a d'abord créé Adam. Il a donné à Adam un jardin pour qu'il le cultive. Et ensuite, il a amené une femme pour être son aide dans la mission. Mais si un homme n'a pas de mission, il est en démission. Si un homme démissionne, la femme ne peut pas être en soumission. La femme est sous la mission de l'homme. Donc, chère jeune dame, si tu veux un homme, ou moins jeune dame, si tu veux un homme qui fasse vibrer ton cœur, selon le cœur de Dieu, choisis un homme qui touche le cœur de Dieu. Et si tu dois l'attendre, attends-le, il viendra. Tu crois à toi? Oui. Comment tu peux être aussi sûr? Parce que tu existes. Le simple fait que tu existes et que tu disposes ton cœur pour plaire à Dieu me prouve qu'il y a un homme qui fait la même chose. Mais si tu cherches et tu trouves trop vite, souffrance. Souffrance. Pas soumission, France. Souffrance. Église, je vous aime. Je pleure pour vous tous les jours, je pleure pour vous souvent. Je regrette vraiment de m'être énervé cette semaine avec cette dame-là. Franchement, je vous demande pardon. Parce que je veux être un exemple pour vous. Mais sincèrement, allons conquérir la réunion pour Jésus. Allons montrer à tous ces hommes et ces femmes que Dieu est bon. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et là, je priais, je dis, Seigneur, quel couple? Comment sera mon couple demain? Et Dieu me répond, ton couple demain sera tel que tu l'as imaginé aujourd'hui. Si tu travailles selon ça. Comment sera l'église extravagance dans 10 ans? Elle sera le fruit de ton travail aujourd'hui. Comment sera ta famille dans 10 ans? Elle sera le fruit de ton travail aujourd'hui. Alors ce soir, s'il faut, quand tu rentres chez toi, si tu as une famille, chéris-la. Si tu sais que tu n'as pas tout ce que tu devrais faire, lève-toi et marche, prends ton lit, jette-le dans la mer. Et bosse. Je finis pas. Mais il y a un jeune homme dans l'église. Je vais taire son nom. Il vient voir Steve il y a quelques mois de cela, en disant, voilà, j'aimerais faire tel boulot dans tel domaine, mais voilà, je suis au chômage, et voilà, mais je ne sais pas trop comment faire. Et Steve lui dit, bah, c'est simple, va voir un patron, une boîte qui bosse dans ton domaine, et bosse gratuitement pour eux. Pardon? Bosse gratuitement pour eux. De toute façon, tu touches en semence à CEDIC, donc pendant un an, tu es couvert, pendant un an, tu n'as pas de salaire. Non, bah, bosse pour eux gratuitement. Si tu as un papier, fais tout gratuit. Ok. Au bout d'un an, le patron n'avait plus le choix que de l'embaucher. Il est devenu incontournable dans la boîte. Il a dit, c'est bon, on t'embauche. C'est bon, on t'embauche. Garde, reste à ta place, on te prend. CDI. Au lieu de nous plaindre en disant, nous voulons plus de l'argent de l'État, tout. Bien. Mais entre-temps, peut-être qu'on peut aller tondre du gazon. Gratuitement. Mais où est fou, quoi, pasteur? Peut-être qu'on peut aller repeindre des murs gratuitement. Peut-être qu'il y a des frères aussi dans l'église qui ont des entreprises et ils galèrent ensemble, ils sont passés de main-d'œuvre. Tu viens aider gratuitement, tu signes un papier parce qu'après, il ne faut pas qu'on se fasse ça par le fisc, hein, faut que c'est vrai, pas rémunéré. Certains se rémunèrent par échange standard, ça ne marche pas comme ça. Tu me files une télévision, je te file un truc, ça c'est un genre de rémunération bizarre, faites gaffe. Hein. Ça s'appelle travail au noir foncé. Pas de paresse, pas de nonchalance et pas d'attente irréelle. Les deux prochains points sont pires que les premiers. Ne ratez pas vendredi prochain. Ça va être vraiment bon. On peut prier ensemble, vous, frères et sœurs, on va se lever, on va se prendre par les mains ce soir. C'est une famille, d'accord? En ce moment, Dieu nous conduit, ex-pasteur Steve, à prêcher des messages comme ça, simples, pragmatiques. Là, c'est, si vous me dites, j'ai pas compris le message, je pleure. Hein. On ne peut que comprendre le message. Mais c'est vraiment un problème grave. Pour les chrétiens, jeunes et les moins jeunes. S'il vous plaît, Église, ce soir, on va prier ensemble pour que le cœur de Dieu soit notre cœur. Qu'on puisse être des bosseurs. Il arrive des moments où on est fatigué, on peut se reposer. Bien sûr, il faut se reposer. Je suis pour le repos, extrêmement important. Certains ne sont pas des paresseux, ils sont des fous du travail. Ils bossent tout le temps, 32 heures sur 24, c'est n'importe quoi. Plus de famille, plus rien. Le gars, c'est un robot. Là, c'est affreux, faites pas ça. Mais ce soir, je sens que Dieu veut nous dire, attention, si vous voulez avec moi conquérir la terre promise, il va falloir travailler dur. La foi, c'est le travail. On travaille avec Dieu. On œuvre avec lui. On n'est pas attentiste. On arrive, on avance, on fonce. On prend les armes, on se bat. On pardonne. On tombe, on se relève. On fait une erreur, on pleure. On se moque de nous, on dit c'est pas grave. On claque dans le pardon. Et on recommence. Pas à claquer, à avancer. Un jour, j'étais à Réma en 95 et mon prof. Un de mes profs nous a partagé son cœur. Il a dit, vous savez, un jour j'ai péché. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Demandez pardon avant, quoi. Faut le faire souvent. Faites pas ça. Allons faire tout notre possible pour nous encourager. Allons nous encourager à faire les bonnes actions. Ça vous va ?